fait, il essaye de me piéger sur des trucs dingues.
Bon, c'est mou, hein. Franchement, la performance depuis le début de l'année, chaque semaine, elle s'effrite un peu. Bon, on est toujours en hausse, hein. Le CAC est à peu près à 5% de hausse, S&P 6%, le Nasdaq 6%, l'Eurostock 50, on est à 8%, pardon, le Nikkei 14%, Shanghai 4%. Allez, Eric, c'est à vous. Les marchés, vous en pensez quoi?
Non, mais les marchés, écoutez, franchement.
D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on s'effrite comme ça, que ce soit pas.
Moi, je trouve quand même qu'on tient plutôt bien, parce que je vous rappelle quand même qu'en début d'année, on prévoyait 6 baisses de taux aux États-Unis. Ouais. Là, on n'en aura sans doute qu'une seule.
Non, Valentine a dit 3.
Moi, je pense qu'on
et
en aura.
Patrice, il dit une à la fin de l'année.
Je pense qu'on en aura qu'une seule. Et surtout, je trouve que les taux longs ne sont pas tellement tendus aux États-Unis par rapport à tout ça. On est passé de 3,90 à 4,60 sur le 10 ans américain avec tout ça, ce qui est pas mal. Moi, j'ai le sentiment qu'on est. Moi, je pense que les marchés risquent de rester entre 7,600 et 8,200 points. Les risques géopolitiques, il y en a toujours avec l'Iran. Mais on sent très bien que pour l'instant, c'est maîtrisé. Du côté des banques centrales, on sait très bien qu'il va y avoir baisse de la BCE avant la Fed. Et du côté des résultats des entreprises, franchement, ce qui est sorti pour le moment, c'est pas si mal que ça. Ce matin notamment, Crédit Agricole, c'est
vendredi,
plus, c'est,
ouais.
Vendredi c'est plutôt bon. Et sur l'ensemble de l'année, le CAC 40, on devrait avoir plus 6 à plus 7% en termes de prévision de bénéfices. Donc moi, j'ai le sentiment que le marché risque de rester par contre entre 7600 et 8002. Il n'y a pas de catalyseur extrêmement négatif, c'est-à-dire qu'on ne voit pas un crack et on ne voit pas non plus une envolée lyrique, sauf si les opérations financières reprenaient dans le monde des big caps, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais même aux États-Unis, on avait des inquiétudes sur les publications des boîtes américaines.
Donc vous êtes plutôt rassuré, vous
ouais,
dites bon,
regardez Apple, on avait une grande angoisse sur Apple. Finalement, le titre se tient plutôt bien.
Ça vous fascine pas que Apple, juste sur l'annonce des résultats post-séance, remonte de 8%, et 8%, ça fait quasiment 200... Non, mais ça fait 200 milliards de dollars.
Bah, ça avait quand même baissé de 15%, et puis attendez...
Non, je suis d'accord, mais 200 milliards
de dollars... Et est-ce que ça ne vous fascine pas que Microsoft, la capitalisation est supérieure à celle du CAC 40?
Ah ouais,
non. Non, mais c'est quand même c'est quand même aussi démentiel.
Non, mais c'est dingue, ça.
On a eu une angoisse sur les résultats aux États-Unis des GAFA, mais finalement, on se rend compte que, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de risques. Alors, il faut vraiment être dans une logique, pour moi, je ne sais pas ce qu'en pense François, il faut vraiment être dans
mais
une logique...
Mais je vais lui poser la question, Eric, merci.
En ce moment, plus que jamais.
François.
Il est là. On a un changement de régime de volatilité, c'est vrai, courant avril, mais ça vient après
ça
un
veut dire
parcours.
Quoi, changement de...
Là, on avait des marchés qui étaient très calmes et qui montaient de manière quasi continue depuis le mois de novembre.
C'est pas non plus la grande agitation, là.
Non, on est monté à 19 sur le VIX.
Magnifique. Et donc, un mois de transition qui arrive juste avant les publications qui correspondent à celles du premier trimestre 2024, ça me paraît assez raisonnable. Et finalement, très peu de fébrilité. Les indices tiennent plutôt bien. Et ils ont raison de bien tenir, les résultats sont excellents qui sont publiés. Et alors pour le coup, moi c'était mon top de cette semaine, mais les résultats aux États-Unis au premier trimestre ont été publiés, ils sont extraordinaires. Et donc on a effectivement des soutiens majeurs. Entendons-nous bien, le top 5, c'est-à-dire le S&P 5 versus le S&P 495 est en hausse des profits, en hausse de 65% face au reste de la cote qui est en recul de 5. Mais donc, ça veut simplement dire que cette concentration qu'on a de performance sur les grands champions, elle est justifiée toujours, encore au moment où je vous parle, on avait déjà eu cette discussion ouais. Marc, elle est toujours justifiée en ce début d'année par des croissances de profits extraordinaires. Et donc, vous avez
ce que vous êtes
des marchés
en train de
qui
dire,
tiennent
c'est...
très bien ouais. sur des publications de résultats. Et ce à quoi on assiste aussi, c'est des arbitrages qui sont à l'intérieur des indices, c'est-à-dire que l'indice ne monte pas de manière uniforme, et on voit bien la capacité de consolider de certains secteurs, y compris d'ailleurs dans les grandes valeurs américaines. On a vu Tesla consolider, on a vu Apple consolider, c'était significatif, hein. Tesla c'était moins 40% avant les publications, donc c'était vraiment des fortes consolidations. Ça n'a pas remis en cause la tendance en Europe, en France, on a eu la même chose avec le luxe, qui était un des gros poids lourds, qui a fortement consolidé, sans que ça remette en cause non plus la tendance de l'indice sous
Donc, dites quoi que la...
Parce qu'on a deux un marché qui est solide.
Vous dites d'un côté, il y a une hyper-concentration des résultats, et donc une hyper-concentration des flux, et de l'autre côté...
Qui est toujours valable,
dites,
oui.
Qui est toujours valable, et de l'autre côté, vous dites ça diffuse quand même, parce que même en Europe, le luxe...
Exactement. D'accord. On trouve des relais, et les investisseurs trouvent des relais sur les indices, sans aller sur des grosses corrections,
donc vous
avec
dites
des replis
quoi,
de 5-6% qui sont très raisonnables.
Vous dites pas d'inquiétude, et même...
Pour l'instant, la lecture des marchés ne nous inquiète pas, parce que le marché a... mûri cette hausse qui a duré 6 mois par une phase de consolidation. Il a attendu de voir les publications de résultats. Et celles qui arrivent aujourd'hui de publication, elles sont plutôt rassurantes pour la suite de l'exercice, avec des communications qui sont aussi assez rassurantes. On parlait des publications du secteur bancaire, par exemple, en Europe. Publication très solide au premier trimestre. Et surtout, un coût du risque très modéré. Donc, ça veut vraiment dire qu'on a, sur le fond, des entreprises qui vont bien.
Patrice, la bourse, ça vous inspire quoi ?
Alors, ça inspire qu'on a envie d'y rester et on a envie de continuer parce qu'en fait, effectivement, avec le panorama qui est décrit, même si l'inflation nous embête encore un petit peu, en définitive, le fait que la Fed laisse la porte ouverte sur quelques baisses de taux, une, deux ou trois, en quelque sorte, alimente la mécanique effectivement de poursuite de hausse des actions avec pas de, je dirais, de problème particulier sur les valorisations à partir du moment où l'actualité reste bonne globalement sur les bénéfices. Donc la mécanique continue. Le problème, ce sera peut-être le jour si la Fed baisse ses taux, ça veut dire que l'environnement économique est moins bon et peut-être que
il y a moins d'inflation.
Et après, si elle va au-delà, peut-être que le régime économique est lui aussi différent et donc peut-être que les bénéfices seront aussi moins intéressants et moins importants que la situation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, pour résumer, on est dans la meilleure des périodes.
Ah oui, carrément. Et juste, vous n'avez pas été surpris, que, je reprends le sujet de la première partie, que la hausse des taux d'intérêt ait si peu d'impact sur la croissance économique ?
Non, parce que je reviens effectivement sur ce que vous avez dit, et c'est exactement ça, la sensibilité de l'activité est moindre.
Donc on s'est trompé, parce qu'on a beaucoup
Non, on ne s'est pas trompé.
Il va y avoir un muant de la hausse des taux d'intérêt.
En Europe, dans l'immobilier,
il y avait moins d'endettement du côté des ménages et du côté des entreprises, avec une gestion beaucoup plus rigoureuse. Le seul agent qui s'endette, c'est l'État. Et l'État a, notamment aux États-Unis, eh bien, la Fed qui, quelque part, utilise un petit peu sa politique monétaire pour assouplir les conditions financières.
Valentine, vous voulez dire?
Oui, je pense que ce qui a quand même porté les marchés ces 6 derniers mois, ça a démarré cette période très très rose, a démarré avec le pivot dovish de la Fed fin de l'année dernière, où la Fed a dit on est confiant sur la trajectoire de l'inflation. D'ailleurs, si on regardait en séquentiel à cette période, l'inflation tournait autour de 2% et on va pouvoir baisser les taux cette année. Là, donc ça, c'est ce qui a porté les marchés, mais aussi l'activité économique, et ce qui a quand même aussi porté l'inflation. Aujourd'hui, pour moi, on reste dans une période qui reste positif pour les actifs risqués, tant que les investisseurs anticipent que la Fed va baisser ses taux. Et là, donc
De toute façon, elle va baisser ses taux. C'est-à-dire,
Est-ce que c'est en 2024 ou est-ce que c'est en 2025 ? Mais si on bascule sur un autre scénario où le prochain mouvement n'est pas une baisse mais une hausse, là, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué sur les actifs
risqués. Bien, ce scénario, il existe vraiment ?
Bien sûr, ce scénario existe aussi sur les marchés pour l'instant. Bah, pour le marché, il croit à 15%.